all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir pour l'épisode numéro 3, Parents toxiques sujet tabou, partie 2. La semaine dernière, dans la première partie, nous avons longuement étudié et discuté de la stratégie mise en place au sein de la société pour dédouaner le parent toxique de sa responsabilité. Nous avons vu que la stratégie consistait, lorsque le parent était coupable d'actes de cruauté envers son enfant, à ne pas le présenter ouvertement et aux yeux du monde sous sa vraie nature, c'est-à-dire toxique, cruel, barbare. En d'autres termes, la stratégie mise en place était d'entretenir le déni en évitant d'associer le parent à des termes péjoratifs. Pourquoi une telle gêne? Pourquoi un tel embarras? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à un tel consensus universellement reconnu? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode en abordant les deux images profondément ancrées, toutes sociétés confondues, à savoir celle de parents, figure d'autorité, et celle de parents, idéal, protecteur. C'est parti! L'une des raisons communément admises et imprégnées dans l'inconscient collectif, c'est la bonne vieille image de la figure d'autorité que représente naturellement le parent. Alors, qu'est-ce qu'une figure d'autorité? La figure d'autorité est considérée comme un droit unilatéral, une force qui conduit des acteurs ayant une ascendance, dans notre cas les parents, à agir sur d'autres acteurs qui leur sont naturellement soumis, ici les enfants, sans que ces derniers n'interagissent. Du fait de leur ascendance sur la génération d'après, les parents bénéficient de ce privilège. Nous l'avons vu, cette notion, vieille comme le monde, est universellement reconnue. À travers cette notion, on considère d'un commun accord que le parent a des droits sur l'enfant, mais aussi des devoirs. Malheureusement, lorsque l'on pense à autorité, immédiatement, c'est le rapport de force qui est mis en avant. C'est le rapport dominé-dominant qui prévaut, avec tous les effets négatifs qui vont avec, au point d'en oublier les devoirs. C'est malheureusement cette idée qui est retenue pour justifier et passer sous silence les comportements abusifs des parents. Il est important de rappeler que les droits dont le parent bénéficie sur l'enfant sont normalement et essentiellement dirigés pour son bien-être, du fait de sa vulnérabilité. Il n'a jamais été question de les utiliser de manière abusive et encore moins pour servir les propres intérêts du parent. Parce que nous leur devons la vie, parce qu'ils veillent à notre éducation, parce qu'ils pallient à notre vulnérabilité, dès les premières secondes de notre vie, dès les premières minutes, nous leur devons le respect. N'est-il pas écrit et inscrit dans notre mémoire d'honorer son père et sa mère? C'est vrai. Mais vous savez quoi? Là, maintenant, tout de suite, en dévoilant la véritable signification du principe d'honneur envers les parents, je vais vous partager un secret qui va non seulement démystifier ce principe, mais aussi vous libérer d'un énorme poids. Ça va être libérateur. En tout cas, ça l'a été pour moi. En tant que chrétienne, lorsque mon pasteur a partagé ce que signifiait réellement ce principe, la culpabilité est partie. J'ai perdu littéralement 15 kilos. Donc mesdames, si vous voulez vous mettre au régime, oubliez les Weight Watchers, les Comme J'aime. Ce que je vous propose, c'est plus simple, c'est instantané et c'est gratuit. Ce qui n'empêche pas sa valeur. Ce que je vous propose comme challenge du jour, en général, je glisse le challenge à la fin, mais là je le sens de le partager maintenant, donc je le fais. Donc tout ce que vous avez à faire comme challenge, c'est tout simplement d'écouter attentivement le podcast et de vous approprier ce que je vais vous partager en vous le repassant dans votre esprit toute la semaine. jusqu'à ce que ça devienne une révélation, puis une évidence, et ensuite votre vérité. Prête pour le secret libérateur? Super. En fait, honorer son père et sa mère, c'est dresser tout simplement un juste bilan de ce qui a été fait pour vous, donc à votre bénéfice, mais aussi contre vous, c'est-à-dire à votre détriment. Donc toutes les fois où vous avez reconnu le bien, mais aussi le mal que votre père, votre mère, voire les deux vous ont fait, vous les avez honorés. En parlant de ce que vous avez traversé, vous avez donc raison de reconnaître les choses positives dont vous avez été bénéficiaire en tant que nouveau-né, enfant, adolescente, puis jeune adulte, mais vous avez aussi le droit de faire l'état des lieux, des dysfonctionnements dont vous avez été victime durant toutes ces années. Il s'agit en fait de faire l'inventaire de tout ce qui a été fait pour vous, mais aussi contre vous. Le fait que vous n'ayez manqué de rien, matériellement parlant, n'est pas forcément synonyme d'amour, si l'intention véritable était d'une manière ou d'une autre de vous nuire. En effet, on peut pourvoir aux besoins de l'enfant par simple devoir, parce que l'on se sent responsable, obligé en tant que parent de subvenir aux besoins de son enfant, mais aussi pour sauver les apparences aux yeux de la société ou tout simplement pour se servir de lui comme faire valoir plus tard. C'est une réalité. Vous n'avez pas à vous sentir mal, à vous sentir mal en point ou coupable de dresser un juste bilan du comportement que vos parents ont eu à votre égard. Voir les choses de façon objective, sans trouver d'excuses à son bourreau ou sans occulter la partie sombre de votre histoire, c'est sortir du déni en confrontant la réalité en face. C'est aussi le signe que vous avancez lentement, mais sûrement, vers votre liberté. C'est également respecter un autre commandement, tout aussi important, qui est celui de ne pas mentir. Donc, en dévoilant franchement ce qui vous est arrivé, le bon comme le moins bon, vous êtes légitime, et je dirais même plus, vous honorez même votre parent en respectant ce que ces derniers et la société vous ont inculqué dès votre jeunesse, à savoir ne pas dire de mensonges. Je vais continuer à vous rassurer en m'appuyant sur la signification du terme « honorer » sans l'associer aux parents. Je vous lis la définition que j'ai trouvée. « Honorer, rendre honneur à, traiter avec beaucoup de respect et d'égard. » Autre définition, procurer de l'honneur, de la dignité, de la considération, contribuer à donner un caractère honorable à quelqu'un. J'ai également trouvé des synonymes, donc honorer, c'est adorer, célébrer, estimer, glorifier, magnifier, respecter, révérer, vénérer, tenir en estime, distinguer, couronner, considérer, etc., etc. Donc vous remarquez que le verbe « honorer » qui renvoie au nom « honneur » a clairement une connotation positive. On honore une personne à la hauteur de ce qu'elle nous a apporté de bénéfique dans notre vie. On ne va pas honorer aveuglément en jetant des fleurs et en faisant que des compliments à une personne qui a été volontairement et quotidiennement mal intentionnée à notre égard. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas associer un terme à connotation positive à des actes négatifs. Parler de ses parents dans le respect, sans les insulter toutes les deux secondes, en mettant sur la table avec objectivité le bien et le mal qu'ils vous ont fait, ce n'est pas les offenser. On ne peut pas vous en vouloir d'exprimer votre douleur en disant la stricte vérité. Ce n'est pas à vous de porter les fautes de vos parents. Bien au contraire, c'est à ces derniers d'assumer leurs actes et d'en prendre l'entière responsabilité. S'ils ne l'assument pas, c'est qu'ils savent très bien au fond d'eux qu'ils sont en tort. Raison de plus pour ne pas culpabiliser. Cacher une partie de la vérité, et ça a été mon cas pendant de nombreuses années, c'est quelque part les protéger. Aussi, en dévoilant la vérité sans être dans le déni, vous vous respectez. et en vous respectant, vous honorez vos parents en envoyant le message qu'ils ont mis au monde, une personne qui a de la valeur et qui est digne de respect. Si vos parents n'en ont pas conscience, ce n'est pas votre problème. Vous avez fait votre part en étant sincère. Aujourd'hui, votre préoccupation à vous, c'est de retrouver la paix au milieu de toute cette toxicité, de guérir, de vous reconstruire et de vous épanouir en faisant ce qui vous a été jusqu'à présent difficile d'accomplir. C'était le secret du jour. Malheureusement, certaines vérités ne font pas les beaux jours de la société ou des institutions. Donc on préfère les passer sous silence pour mieux dominer la situation, pour ne pas dire le peuple. C'est ainsi que déroger à ce principe d'honneur est considéré dans toute culture comme un véritable blasphème et un déshonneur s'il n'est pas scrupuleusement respecté. Ça peut être à juste titre considéré comme un blasphème, mais, parce qu'il y a un mais, dans la Bible, il y a une mise en garde faite aux parents concernant son comportement à l'égard de l'enfant. Je cite « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Éphésiens 6:4. D'ailleurs, l'expression grecque « n'irritez pas vos enfants » signifie littéralement « ne provoquez pas la colère ». Si l'apôtre Paul, l'auteur de cette recommandation, a jugé bon de la partager, c'est qu'il avait pleinement conscience du comportement abusif de certains parents envers leurs enfants. Cette mise en garde, ce conseil, rappelle aussi au peuple d'Éphèse, à qui la recommandation a été adressée, que les enfants ne sont pas des êtres inanimés, sans aucune sensibilité ni émotion. Mais tout comme eux, ce sont des êtres humains qui ont des sentiments, des émotions et le droit au respect. Très souvent, lorsque ces parents toxiques s'en prennent à leurs enfants, on a l'impression qu'ils les considèrent comme des objets. Pourtant, un objet, lorsqu'on n'en prend pas soin, il s'abîme et déclare forfait lorsqu'il est brutalisé. À plus forte raison, un être humain. Un peu plus loin, le même auteur, dans sa lettre au peuple de Colosse, réitère auprès des adultes son invitation à ne pas irriter leurs enfants, en ajoutant cette fois-ci une autre précision, je cite « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Colossiens chapitre 3, 21. En allant un peu plus loin dans cette recommandation, l'apôtre Paul reconnaît les conséquences néfastes que peuvent avoir les comportements abusifs et malveillants sur l'enfant. Il parle clairement de découragement et l'on sait très bien que le découragement peut engendrer de la dépression, un dégoût de vivre, de la déception, de la haine envers ses parents et son entourage en général. Décourager ses enfants, c'est aussi prendre le risque de les briser physiquement et psychologiquement. C'est aussi prendre le risque de mettre fin à leurs rêves, d'anéantir leur personnalité, leur identité et d'entraver leur destinée. Pour conclure, la Bible précise donc que les droits des parents exercés sur son enfant pour son bien-être sont justes et recommandés, tandis que ceux exercés de manière abusive et autoritaire sont à proscrire. Vous pouvez remarquer que lorsque l'on prend le temps d'analyser les textes et de les remettre dans le contexte, c'est une autre histoire qui se raconte, la bonne, et pas celle qu'on essaye de nous imposer au seul bénéfice du parent. Trop de personnes, moi la première et surtout en tant que chrétienne, avons été paralysées et tétanisées par la culpabilité de faillir à ce fameux principe d'honneur et de respect que l'on doit à ses parents. C'est dans cette atmosphère d'obéissance sans faille que les droits reconnus aux parents sur l'enfant sont souvent extrapolés et mis en avant par le parent pour justifier des actes inqualifiables. Dans certains cas, notamment chez le parent toxique et dans certaines cultures, le parent est tissé au rang de demi-dieu. Et comme tout demi-dieu qui se respecte, tout acte de contestation contre les principes, cruel soit-il, imposés par le parent, est considéré comme un acte de rébellion et est sévèrement condamné et ce, quel que soit l'âge de l'enfant. Il peut avoir 5 ans, 10 ans ou 70 ans, ça sera la même chose. Ça parle à quelqu'un? J'en suis certaine. On le constate très souvent dans le pays comme l'Afrique, l'Asie et même dans certains pays d'Europe où la famille tient une place très importante au sein de la société comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, par exemple. Dans ces pays-là, l'enfant devenu grand et parent à son tour est souvent renvoyé à sa condition d'enfant où son opinion, sa personnalité et son individualité sont étouffées. Les traditions au niveau de l'éducation, perpétuées de génération en génération, accentuent aussi la sacralité de la figure d'autorité. C'est comme ça et pas autrement, disent-ils. Dans ces cultures, les traditions ont vraiment, vraiment, vraiment la dent dure. L'instinct grégaire domine et les réfractaires qui désirent mettre un coup de canif aux traditions pour la plupart ancestrales sont fortement réprimandés et sommés de rejoindre le rang sous peine de malédiction. C'est dans ce genre de contexte que l'amalgame est vite fait entre un principe divin, universellement reconnu mais mal interprété, le respect ou l'honneur du parent, et les traditions humaines qui n'ont dans ce contexte qu'un seul but, servir les propres intérêts égoïstes et cruels du parent toxique au détriment de l'enfant. Je le rappelle, les droits des parents doivent être au bénéfice des enfants. Dès lors que ce n'est pas le cas, vous êtes en droit, en tant qu'enfant, devenu en plus adulte, de les contester et de ne pas vous rallier à ce qui vous est nuisible. Si aujourd'hui vous êtes dans la situation où vous contestez l'injustice que vous inflige votre père ou mère toxique, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas facile. Parce que ce sont vos parents, je le sais, pour être passé par là. Il y a la pression familiale, la pression sociale, il y a des personnes que vous connaissez à peine ou que vous n'avez pas vues depuis X années qui vont surgir de nulle part pour brandir un bâton et vous faire la morale. Ces gens-là, vous voulez savoir comment je les appelle? Je les appelle les lanceurs de tomates pourries. Et vous, vous les appelez comment? Laissez-moi dans les commentaires, je rigole. Ces gens-là, ce sont des intérimaires. Leur mission d'intérim est généralement de très, très courte durée. Quelques secondes, le temps de lancer leur tomate pourrie. C'est pour cela que les parents toxiques recrutent pas mal d'intérimaires. Leur mission consiste juste à balancer leurs vieilles tomates et de disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Mission éclair. Raison de plus pour ne pas leur accorder plus d'importance qu'ils en ont. Demain, si vous êtes en difficulté, ce n'est pas eux, ce n'est surtout pas eux qui vont vous secourir. N'en tenez donc pas compte. Je le répète, ce n'est pas facile, mais vous devez faire le pas pour votre liberté, par amour pour vous et la famille que vous avez éventuellement fondée. J'insiste, car on n'insiste jamais assez, le parent toxique peut être dénoncé à partir du moment où la ligne rouge a été franchie. Le dénoncer ou remettre publiquement en cause ses actes, ce n'est pas leur manquer de respect ou les déshonorer, c'est tout simplement faire respecter un droit immuable et légitime, le respect les uns envers les autres. Autre raison pour laquelle la société témoigne d'une certaine frilosité, lorsqu'il s'agit de dénoncer frontalement le parent de toxique, c'est qu'encore une fois, dans l'inconscient collectif, le parent, en plus d'être considéré comme une figure d'autorité quasi inébranlable, est aussi représenté comme le parent protecteur, le parent nourricier qui pourvoit au bien-être de sa progéniture. Alors qu'est-ce qu'on entend par parent protecteur? Tout simplement, celui qui prend soin de s'assurer de transmettre à son enfant une bonne éducation et des bonnes valeurs pour son intégration sociale, celui qui se préoccupe de la santé de son enfant et qui fait en sorte qu'il ne manque de rien, et tout ça au nom de l'amour et dans le souci de son épanouissement personnel. Face à cette bienveillance, il est donc difficilement supportable pour la société de s'imaginer ou de voir chez un parent qui est censé pourvoir au bien-être de son enfant un potentiel monstre qui souhaite du mal à son enfant. On souhaite donc garder en tête l'image de la maman poule ou du papa poule qui prend soin de ses petits. Ça rassure, ça fait du bien. Le parent protecteur doit aussi représenter une sorte de héros sacrificiel prêt à tout pour arracher ses enfants des griffes des méchants. Dans le cas où on nous présente le parent sous un mauvais jour, le déni aura bon dos. Et on tâchera de l'utiliser à chaque fois qu'on tentera d'entacher l'image du parent protecteur. Plus que l'image du parent protecteur, la société contribuera également à entretenir coûte que coûte le fameux mythe du parent idéal, qui serait fort, inébranlable, sans aucune blessure qui pourrait éventuellement causer de profonds troubles psychologiques, profondément aimant et patient en toutes circonstances, toujours de bonne humeur, souriant et disponible en tout temps pour ses enfants, etc., etc. En gros, la version de Charles et Carole et Caroline Ingalls dans la petite maison dans la prairie, pour celles qui connaissent. Sauf que la réalité est tout autre. D'où l'existence de ce podcast. En fin de compte, on déifie le parent en l'élevant quasiment au statut de demi-dieu, ce qui lui confère une nature quasi sacrée et intouchable au grand désespoir d'enfants victimes de parents toxiques. Pas étonnant que les auteurs ou les réalisateurs de films utilisent leur art comme exutoire pour dépeindre sous des traits très peu flatteurs, voire même très cruels, les parents toxiques. Ce qu'ils ne peuvent pas exprimer dans le monde réel, par peur d'être censurés, ils l'expriment dans le monde fictif. Et tout le monde y trouve son compte, sauf les enfants qui sont les premières victimes de cette hypocrisie. Sans tomber dans le travers inatteignable du parent parfait, que la société semble vouloir nous imposer, qu'est-ce qui fait un parent toxique ? Je vais m'appuyer sur la définition de la psychothérapeute Suzanne Forward qu'elle donne dans son livre « Ces mères qui ne savent pas aimer ». Dans le passage que je vais vous lire, elle décrit ce qui fait une bonne mère. Sa description vaut bien entendu pour le père. Je vous lis le passage. « Une bonne mère n'est ni parfaite ni une martyre. Elle a son propre bagage émotionnel, ses propres cicatrices, ses propres besoins. Elle peut ne pas vouloir faire de compromis sur son travail et donc ne pas être disponible à certains moments pour sa fille. Elle peut aussi perdre patience, dire ou faire des choses qu'elle regrette. Mais si son comportement général permet à sa fille de croire à sa propre valeur et nourrit le respect qu'elle se porte, son assurance et sa sérénité, cette mère remplit bien son rôle, qu'elle soit une maman merveilleuse ou juste suffisamment bonne. Elle fait preuve d'amour véritable, de façon tangible et fiable envers son enfant. » Vu comme ça, l'image du parent semble plus réaliste. Cela nous permet également de comprendre et de se représenter plus facilement que le parent imparfait, souffrant éventuellement de graves pathologies, peut être capable de se transformer en monstre envers son enfant. En niant le parent en tant qu'héros, sans défaut, on oublie qu'on ne naît pas parent, mais qu'on le devient. Donc logiquement, avant d'être parent, nous sommes des êtres humains avec nos qualités, nos défauts et nos blessures. Avant d'être parent, nous avons naturellement été des enfants, avec pour la plupart d'entre nous de profondes blessures, puis nous avons grandi. Mais le fait d'avoir grandi n'enlève rien à la souffrance qu'on a vécue étant enfant. Ce qui est ironique, c'est que la société semble ne pas avoir conscience que le parent toxique qu'il porte au nu et semble protéger contre vents et marées est la même personne, avec des années en plus bien entendu, qu'elle avait ignorée et méprisée par son silence lorsqu'elle était enfant. Encore une fois, nous baignons dans l'hypocrisie. Il n'y a aucune honte à reconnaître les failles d'un parent. Au contraire, c'est salvateur. Et pour le parent, pour qu'il soit éventuellement pris en charge en termes de soins et pour l'enfant. Présenter le parent tel qu'il est avec ses qualités et défauts, ce n'est pas dénigrer le parent, c'est juste voir la réalité en face et reconnaître que c'est un simple être humain qui est en apprentissage dans son rôle de parent. Arrêter de mettre une telle pression sur un parent, c'est aussi l'opportunité de libérer la parole du côté des enfants et du côté de certains parents qui souhaiteraient plus que tout de l'aide sans oser en demander du fait de cette pression du mythe du parent parfait, du mythe du parent protecteur idéal. Puisqu'il ne semble pas permis de considérer le parent comme un simple être humain pouvant avoir des failles, les défauts et les blessures non traitées se répercutent sur les enfants. Conséquence, les blessures se transmettent comme un mauvais héritage de génération en génération jusqu'à temps qu'une génération, donc ma génération, la vôtre, mesdames, décide de couper et de jeter au feu les racines du mal. Le mythe du parent protecteur idéal est tellement, tellement, tellement ancré qu'à la moindre critique, justifiée, mais négative envers le parent toxique, vous êtes immédiatement envoyé au banc des accusés et s'en suivent un flot de reproches. Tu exagères, tu es trop sensible, c'est quand même ta mère, c'est quand même ton père, rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi, rappelle-toi ce qu'elle a fait pour toi, comment oses-tu parler de cette manière de ton père, de ta mère? Si ce ne sont pas les reproches, vous serez face au scepticisme. Ah bon? Tu en es sûr que ça s'est passé comme tu le dis? T'exagères pas un peu? T'es beaucoup trop sensible. Vous serez aussi face à des conseils tout sauf productifs, sans aucune considération de votre souffrance. Je comprends ta souffrance, mais tu sais, tes parents ne sont plus tout jeunes. Lorsqu'ils seront sur leur lit de mort, tu risques de le regretter. Oublie le passé. Le passé, c'est le passé. Ça reste tes parents. Pire, vous subirez de vives critiques, égoïstes, ingrates, mauvaises filles, etc., etc. Seul contre tous, alors que vous êtes dans votre bon droit, vous commencez à gamberger. Ah, peut-être qu'au final, j'exagère. Vous tentez de trouver des circonstances atténuantes et vous essayez de revivre certaines scènes pour vérifier si vous avez bien interprété. Vous n'avez pas à vous ranger du côté de la société ou de la justice qui prennent consciemment parti pour les parents défaillants. C'est comme nier vos souffrances qui sont bien réelles et ne pas vous respecter. Autrement dit, c'est comme si vous vous auto-flagelliez et que vous vous rendiez complice avec vos bourreaux et la société de vos blessures en pensant qu'ils ont finalement raison. Non, non, non. Ils n'ont pas raison. Ne vous rendez pas coupable et osez parler de vos souffrances sans considérer le thème de parents toxiques comme quelque chose de tabou. Les parents toxiques existent, ils sont bien réels. Parlez de vos souffrances, cherchez de l'aide, n'ayez pas honte. Osez reprendre votre liberté, elle vous appartient. Cette émission touche à sa fin, nous avons donc vu les deux principales raisons qui encouragent la société à protéger d'une certaine manière le parent toxique, du fait de la figure d'autorité que représente naturellement le parent, et en raison du mythe du parent protecteur idéal entretenu par cette même société et certaines institutions. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Comme d'habitude, ça a été un plaisir. Je vous remercie pour votre fidélité et vos encouragements. Pour ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer, et à partager le lien pour en faire profiter le plus de monde possible. Si vous écoutez le podcast sur iTunes, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire pour que Détox Parents Toxiques gagne encore plus en visibilité. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses à lever le tabou de parents toxiques, moins ils auront d'emprise. La semaine prochaine, je traiterai de la dépendance du parent toxique, donc soyez au rendez-vous. Je vous dis à très vite et vous souhaite une bonne cure de détox, parents toxiques pour une liberté non négociable. Ciao! It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more.
It's all about